Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réussi à le traîner en studio, en personne. On est avec Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste, coordonnateur de projet au COBALI, un organisme qui s'occupe de la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi, Patrick?
Ça va bien, ça va bien. C'est tout le temps plus le fun d'avoir des gens devant moi directement. On parle de quoi aujourd'hui?
On va parler d'eau souterraine, imagine-toi.
D'eau souterraine, OK.
Souterraine, cette fois-ci. Puis, je prends l'occasion de la fin d'un gros projet là, qui a eu lieu dans la région, qui s'est échelonné sur 4 ans.
Ah oui, c'est gros, 4 ans quand même.
Oui, un gros projet de recherche qui est le projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines des Laurentides.
OK.
En gros, là, c'est une grosse étude sur les eaux souterraines et leur protection dans notre région, qui a été réalisée par l'équipe de Marie Larocque, qui est professeure à l'UQAM. Avec la collaboration des MRC puis des organismes de bassin versant, dont évidemment le COBALI.
On a mis un petit peu... je prends du crédit. On a travaillé ici, le COBALI a travaillé là-dessus, bien sûr, OK. Évidemment qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment. Il y a des gens de la région qui ont des puits à la maison ou sinon peut-être au chalet. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis l'eau souterraine, pas sûr qu'on parle de ça très régulièrement. Tant mieux, t'es là pour nous en parler. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur les eaux souterraines de notre territoire?
Bien, pas mal de choses, mais premièrement, disons que faut savoir qu'il y a de l'eau souterraine partout ou presque. Hein? Si on fort, là, même dans le roc, en fait, il y a de l'eau.
Même dans le roc?
Même dans le roc.
Wow!
Parce qu'en général, il y a des fractures où l'eau peut s'infiltrer quand même. Mais en général, si on va plus dans le fond des vallées, exemple la Lièvre ou de la Rouge, ben là, on a du sol qui est fait de dépôts un petit peu plus fins,
okay,
qui recouvrent la roche-mère, oui, là, le roc. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les dépôts meubles. Fait que on parle de sable, gravier ou d'argile. Puis ces dépôts-là, ben souvent, c'est des aquifères, c'est-à-dire des sols qui peuvent contenir aussi des nappes d'eau souterraines qu'on peut utiliser.
J'apprends des nouveaux mots aujourd'hui. Peut-être que c'est pareil pour vous. Est-ce que cette eau-là, elle est, est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est statique? Est-ce que ça dépend des cas?
Ben, l'eau souterraine, hein, c'est comme l'eau de surface, c'est très dynamique.
Okay.
Fait qu'il y a des endroits où il y a des recharges, qu'on appelle, qui permet de l'écoulement entre la surface du sol puis l'eau souterraine. Fait que normalement, il y a toujours un endroit où l'eau peut s'infiltrer pour aller rejoindre l'eau qui est sous terre.
OK.
Puis cette eau-là, une fois qu'elle est sous terre, donc elle va circuler là, suivant la pente, fait qu'elle va descendre sous terre, mais elle va aller alimenter aussi au passage les rivières puis les lacs.
Ah oui, OK. Il y a de cette eau-là qui se rend jusqu'au gros bassin et tout ça. Oui,
exactement. Il y a toujours une partie là, de nos cours d'eau qui sont faites en réalité d'eau qui a passé par les eaux souterraines.
OK.
Fait que si on regarde le rapport, entre autres, là, dont je vous parle, ben, il y a une partie du territoire où on a des zones de recharge, qu'on appelle.
OK. Comment ça fonctionne?
Ben, c'est des endroits où l'eau s'infiltre facilement dans le sol puis va aller recharger davantage qu'ailleurs les eaux souterraines. Fait que ces zones-là, si on comprend, là, ça veut dire qu'elles sont importantes à protéger parce que si, exemple, on met une industrie polluante dans ces endroits-là, ben, ça va être encore bien plus facile pour les polluants d'aller contaminer l'eau souterraine.
Ça va voyager plus librement, fait que...
C'est ça.
OK.
Puis dans d'autres secteurs, ben il y a très peu d'infiltration, au contraire. Ça dépend du sol.
OK.
Fait que si on a, comme dans la vallée de la Lièvre, on a beaucoup d'argile.
Oui.
Puis l'argile, ben on le sait, là, la glaise, là, c'est quasiment imperméable, ça laisse pas passer l'eau ben. Donc, à ce moment-là, quand il pleut, l'eau a moins tendance à s'infiltrer vers l'eau souterraine.
Ça se promène pas trop.
Fait que ce qui arrive, en gros, c'est que si... on est dans du sable, ben souvent c'est plus facile d'aller recharger l'eau.
OK, mais oui, ça passe facilement.
Sauf que ça vient avec le désavantage que c'est plus vulnérable à la pollution.
OK.
Puis vice-versa, donc si on est sur l'argile, ben c'est l'inverse. On recharge moins facilement notre eau souterraine, mais elle est comme protégée naturellement, si on veut.
OK. Donc est-ce que c'est de l'eau de qualité? Est-ce que c'est de la mauvaise eau?
Oui, ben en général, là, les eaux souterraines dans notre région sont quand même de très bonne qualité. Mais attention, il y a quand même une donnée qui fait réfléchir, là. C'est qu'on a analysé plusieurs puits dans cette étude-là, puis
ouais,
on s'est rendu compte que quand même 30% des puits analysés avaient des dépassements pour les bactéries,
oh,
donc pour la bactériologie.
Pis ça, c'est des puits qui étaient utilisés, là?
Des puits utilisés pour la consommation des gens.
Oups!
Fait que, faut faire attention, parce que souvent, c'est des puits qui étaient assez proche de la surface, puis qui peuvent être contaminés soit par la fosse septique, des fois qui n'est pas très performante, Ça peut être aussi l'agriculture ou un lac, disons, qui communique là, avec l'eau en surface sous le terrain. Fait que c'est important de faire analyser l'eau de son puits régulièrement, là, puis de s'assurer évidemment qu'on a une fosse septique qui fonctionne bien.
Oui, j'espère. Ça, c'est quelque chose que tu veux qui fonctionne bien. Tu veux pas avoir de doute. OK. Autre chose à savoir?
Oui, bien, une autre particularité de notre région, surtout dans la Lièvre, c'est qu'il y a des niveaux, selon les endroits, qui peuvent être assez élevés en radon.
Qu'est-ce?
Le radon, c'est un gaz toxique.
Ouais.
OK. Qui se crée en contact avec des roches riches en uranium.
Oh boy, on vient de partir dans l'uranium.
C'est quelque chose, non, mais on sait que dans la région, il y avait eu question d'uranium un bout de temps là, d'exploitation de ça.
OK.
Puis, ce qui arrive, c'est que le radon va aller en partie dans l'eau souterraine. Puis quand les gens vont prendre leur douche, c'est ceux qui ont des puits, ben ce gaz-là va comme s'échapper puis venir contaminer leur maison.
Ah, on n'a pas le goût, hein?
Fait que c'est ça. Faut être vigilant. Il existe des détecteurs là, que vous pouvez installer pour voir si vous êtes à risque ou si si vous avez des taux élevés de radon dans votre maison. Mais il faut être vigilant par rapport à ça.
OK. Bon, on l'a dit en commençant tout ça, c'est la fin de notre saison. C'est la dernière fois qu'on se parle cette année. Si on s'était parlé en juin, on aurait pu parler d'un beau mois important.
Ouais, juin, c'est le mois de l'eau hein, partout au Québec. Nous autres, du côté du Cobali, comme la thématique cette année, c'est les lacs. Ça tombe bien, on en a beaucoup.
Quelques-uns.
On en a quelques-uns. Donc, le Cobali, on fait un concours amical où on veut savoir c'est quoi le plus beau lac de la région.
Oh boy! Oh, que là, on embarque dans... Là, ça va chicaner, là.
Ça va, oui, les chicanes de paroisse peuvent commencer. Donc, non, mais c'est un concours amical quand même. Mais si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à nous parler de leur lac... on aimerait ça faire une série de balados pour faire découvrir les lacs de la région, puis mettre en valeur évidemment le lac gagnant. Là, il va y avoir un petit concours par rapport à ça.
Écoute, moi je suis certain que ça va fonctionner parce que les gens sont très souvent fiers de leur lac. Comment on fait pour vous rejoindre si peut-être on aimerait ça là, participer, ou en tout cas si on veut dire « le mien c'est le meilleur ».
Ouais, ben juste à nous contacter, courriel ou téléphone, puis si ça vous tente d'enregistrer un petit balado, ben on va vous passer, ça va être sur notre site web pendant le mois de juin, évidemment.
OK, si les gens veulent participer, peut-être un numéro de téléphone pour vous rejoindre?
Oui, 819-440-2422.
Pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai déjà hâte de savoir quel lac va gagner. M'en aller faire mon tour à part de ça. Aujourd'hui, on était avec Pierre-Étienne Drolet, biologiste, coordonnateur de projet au Cobali. Pierre-Étienne, je te remercie beaucoup pour ta participation cette année.
Mais c'était un plaisir. Fait qu'à la prochaine, Patrick.
Bon été, bon mois de l'eau. Salut!